c'est bon pour la santé.
Bonjour et bienvenue à C'est bon pour la santé. Ici Camille Chai, votre animatrice, en compagnie de mon cher co-animateur médecin, François Barbiel. Bonjour François.
Bonjour ma chère Camille.
Ensemble, François et moi abordons différents sujets variés et très intéressants, et ce de façon hebdomadaire. Très rapidement, rafale aujourd'hui, nos intervenantes seront Annick Filion qui nous a mené exceptionnellement deux Vox Pop qui porteront sur le vieillissement, et une nouvelle collaboratrice, Myriam Daguzan-Bernier, nous livrera un coup de gueule sur le non-civisme sur les réseaux sociaux. Comme toujours, nous commençons cette émission en beauté avec un sujet qui touche une grande partie de la population, et oui, le vieillissement. D'ailleurs, nous avons avec nous en studio Louise Savard, co-auteur du livre « Vieillir à la bonne place, le choix d'un milieu d'hébergement, les étapes, les enjeux » des éditions Trécaré. Et en seconde partie d'émission, nous recevons Dr Monique Bessette qui, elle, vient nous parler du livre « Les personnalités particulières au travail », donc « Comment les superviser et collaborer efficacement avec elles » des éditions de l'Homme. Bienvenue à vous tous et merci de passer cette heure avec nous. Et pourquoi vous nous écoutez aujourd'hui? Eh bien oui, parce que ce qu'on vous présente, c'est bon pour la santé. Louise Savard, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue en studio.
Merci.
Louise Savard, lorsqu'une perte d'autonomie apparaît, c'est-à-dire que les personnes n'arrivent plus à assurer leur qualité de vie et chez eux ou chez des proches, un centre d'hébergement de soins de longue durée, par exemple le CHSLD, devient nécessaire. Le livre que vous avez écrit avec Lita Béliard traite de ce sujet très douloureux qui parfois ça se passe mal. Et le titre de votre livre, c'est « Vieillir à la bonne place » et c'est édité chez Trécaré. Vous y expliquez quelles sont les meilleures solutions pour chacun, comment arriver à cette meilleure solution le plus vite, mais pas forcément le plus tôt possible, et si possible sans douleur. Vous exercez dans le domaine depuis de nombreuses années, vous intervenez dans la certification des résidences pour aînés, dans la gestion des CHSLD au public et au privé, dans le suivi clinique et la gestion en centre hospitalier, dans la gestion du mécanisme d'accès de l'hébergement, c'est encore une de vos spécialités, le sujet du livre d'ailleurs. Et la première question, ça va être, quels seront les besoins en hébergement des personnes handicapées dans les 10 ans à venir?
Évidemment, lorsqu'on parle de personnes handicapées, on ne fait pas un lien avec l'âge, parce que dans le fond, on peut être handicapé entre 18 et 65 ans, puis il n'y a aucune ressource qui existe au Québec. D'accord. Malheureusement, lorsque les gens ne peuvent pas rester en foyer d'accueil ou dans une ressource intermédiaire, bien malheureusement, le dernier choix qui reste pour des jeunes adultes, c'est d'être en hébergement, en CHSLD, ce qui est incongru en soi. Les gens ne souhaitent pas aller en CHSLD. On se comprend, c'est la dernière alternative. Et même, je vous dirais que notre livre fait peur à certaines personnes qui se rapprochent de ces besoins-là. Mmh. OK? Donc, les besoins pour les handicapés pour le futur vont être énormes parce qu'en 2031, ne serait-ce que les personnes âgées, on va presque doubler la population pour les personnes âgées en 2031. Donc, il faut trouver des nouvelles façons de se renouveler pour donner les services autant à partir du domicile jusqu'au CHSLD.
Est-ce qu'il est possible d'avoir des services à domicile, justement, indépendamment du CHSLD ou bien dans le cadre du CHSLD, externalisé peut-être?
Dans le fond, à chaque fois qu'on parle de vieillir à la bonne place, le premier sujet qui arrive, c'est le CHSLD.
Ah oui.
Alors, c'est le dernier recours.
En fait, c'est le dernier recours.
Parce qu'il y en a d'autres avant. C'est le dernier recours. Mais c'est ça. Donc, évidemment, ce qui arrive, c'est que d'abord, tout le monde veut rester à domicile. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Quel type de service qu'on peut avoir à partir du domicile? C'est-à-dire que lorsqu'on a des aidants naturels pour nous aider, nos enfants, nos proches, des amis, ça nous permet de rester à domicile avec un minimum. Le minimum de ces services-là, le CLSC doit offrir 10 heures de service. Ce qui vient combler peut-être la balance des autres heures, c'est les services communautaires qui peuvent se greffer et le service de chèque emploi qui peuvent aider les gens à faire quelques entretiens à domicile.
Mais les aidants naturels sont aidés, donc en fait, eux-mêmes, ils sont aidés ou est-ce qu'ils sont toujours responsables de ce qui se passe?
Sens que finalement, il y a un sens moral aux aidants naturels.
Oui.
Parce que dans le fond, puis je veux dire, peut-être que de ma génération à moi, donc on a encore, je vous dis pas que les jeunes n'ont pas le souci de garder les personnes âgées, mais les familles rétrécissent, il y a moins d'aidants naturels dans les familles.
C'est vrai.
Et à l'intérieur de ça, ce qu'on remarque, surtout à Montréal, il y a un isolement très marqué et Montréal représente la moitié de la province.
Mm-hmm.
Dans les communautés culturelles, c'est plus acquis de dire qu'on doit prendre soin de son parent, de le garder longtemps et d'attendre jusqu'à la dernière limite.
C'est une question de valeur.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, ce qui arrive, les aidants naturels sont souvent dépourvus parce qu'à un moment donné, ils deviennent essoufflés. Souvent, certains de ceux-ci doivent quitter leur travail pour prendre soin de leurs parents et on n'a pas suffisamment encore fait des appoints au niveau politique pour permettre de leur donner un support monétaire.
C'est ça, ils ne sont donc pas payés. Ils sont toujours bénévoles.
Ils sont toujours bénévoles, évidemment.
En plus d'un travail, de leur travail, ils doivent s'occuper de leurs parents ou de leur famille.
Et puis, à l'intérieur de ça, l'intergénérationnel, bon bien, la génération Sanouche, on doit s'occuper de nos parents, puis les parents, eux, qui deviennent à la retraite, s'occupent de leurs petits-enfants, pour permettre à leurs enfants d'aller aussi faire des sous pour répondre aux besoins de la société. Alors, finalement, c'est pas simple, là. La solution est pas simple, et souvent, les gens vont consulter un livre comme ça où on va être à la recherche d'informations lorsqu'ils vont être en état de crise.
C'est vrai que c'est un livre qui est vraiment plein d'informations.
Oui.
Mais ce qu'on peut faire, c'est il y a tellement de choses à dire, on va pouvoir en discuter après un vox pop qu'on va aller écouter ensemble. Donc un vox pop d'Annick Filion qui met en vedette des personnalités publiques qui posent un regard sur le vieillissement.
Comment est-ce qu'on peut se préparer à cet événement-là qui est peut-être de changer d'endroit pour bien vieillir, à la bonne place, au bon endroit?
Le 3 mai 2012, j'ai déposé une politique « Vieillir et vivre ensemble chez soi, dans sa communauté au Québec ».
Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants.
Ça veut dire que les gens veulent vieillir dans leur environnement le plus longtemps possible. Vivre dans leur village ou leur petite ville, parce que ça fait partie de leur identité intrinsèque.
Comment choisir pour vieillir au bon endroit? Est-ce qu'on reste chez soi? Est-ce qu'on adapte notre maison? Est-ce qu'on va dans une maison des aînés?
C'est pas évident parce que je trouve qu'il faut faire sa propre analyse de besoins.
Marie-Claude Barrette, animatrice et porte-parole de l'événement On jase-tu du magazine Bel Âge.
Est-ce que tu vieillis seul? Est-ce que tu es avec ton conjoint? Ça, c'est déjà une grosse différence. Il y a des gens qui veulent rester dans leur maison à tout prix, mais je pense qu'il faut faire attention parce qu'il faut quand même être autonome pour rester dans sa maison, surtout si on est seul.
Mais je pense que la chose la plus importante, c'est de ne pas justement être dans l'isolement, dans la solitude.
Marie-Thérèse Fortin, comédienne et porte-parole des petits frères.
Parce que je pense que la solitude, c'est qui n'est pas choisie, c'est le début d'un tas de problèmes.
Des enjeux, vous croyez, Marie?
Oh oui, je pense que ça va être un des prochains grands enjeux. De la même façon qu'on a une responsabilité envers nos enfants, je pense que de la même façon, on a des responsabilités envers nos aînés.
Moi, j'en ai vu des proches aidants aussi se mettre à bout, tu sais, parce que de s'occuper de quelqu'un d'autre dans une maison quand c'est pas complètement adapté, il y a beaucoup de gens qui sont isolés parce qu'ils sont proches aidants, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont pauvres, sont à bout, ces gens-là, ils n'ont plus envie de sortir. Donc, c'est-à-dire, si on donnait plus de sous à ceux qui veulent devenir proches aidants, il y a plus de gens qui resteraient dans leur maison. Et je pense que tu vieillis moins vite quand tu restes chez toi parce que tu gardes tes repères, parce que les gens viennent te voir. Tu sais, t'es dans tes affaires. C'est un choc pour quelqu'un de déménager. Plus que la personne est vieillissante, plus que c'est un choc.
C'est vraiment un grand deuil, hein, quand on change de maison, de résidence. Quand on vit avec d'autres personnes, on doit s'adapter aux autres. On doit s'adapter à une cuisine qui n'est pas forcément la cuisine qu'on ferait pour soi à la maison, mais les gens, à un moment donné, sont obligés de peser le pour et le contre. Nous, au gouvernement, on a choisi un modèle qui s'appelle la maison des aînés, où on veut pouvoir accueillir des personnes en perte d'autonomie modérée et les garder jusqu'à la fin de la vie. On aimerait que ce soit des milieux de vie jusqu'à la fin, et non pas des milieux de fin de vie.
Donc, pour moi, la première affaire, c'est...
Marie-Claude Barrette.
Je voudrais rester chez moi le plus longtemps possible, mais quand même dans des conditions qui amplifient pas ma condition. Et après, évidemment, j'irai dans une résidence, mais je suis pas sûre que je voudrais aller dans un CHSLD, par exemple.
Ma mère a 101 ans.
Marie-Thérèse Fortin.
Elle a vécu jusqu'à 98 ans. Elle avait son petit appartement dans une résidence où les gens se sont mobilisés pour faire une maison pour les aînés. Et puis, malheureusement, elle a fait une dégénérescence maculaire aggravée, donc elle est devenue aveugle. Donc là, elle est à Montjoly, dans un petit CHSLD, c'est une maison privée qu'une dame tient avec des employés. Donc, c'est très familial. Et elle est bien, elle se trouve très bien là. Elle est à côté de la cuisine, elle adore ça parce qu'elle dit qu'elle sent les odeurs de nourriture, puis ça lui rappelle des souvenirs.
Est-ce que je peux vous demander, vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez?
Pour moi?
Oui. Est-ce que c'est possible de vous demander ça? Est-ce que j'ai le droit de vous demander ça?
Bien, moi, c'est comme ce que les gens souhaitent. J'aimerais vivre chez moi le plus longtemps possible.
Marguerite Blais.
Je suis très consciente que la maison dans laquelle je vis actuellement sera probablement pas la maison idéale parce qu'elle est en palier. J'ai vu avec mon mari combien c'était difficile une maison en palier quand il a été malade. Je déménagerai de chez moi quand je verrai que... J'espère que je serai raisonnable. C'est tout ce que je souhaite. J'espère que je serai raisonnable. Mais je suis comme tout le monde. Je vais vouloir vieillir dans mon environnement.
Moi, là, dans ma résidence, ou en tout cas mon lieu, ce serait qu'on soit un paquet de monde, mais moi, j'ai besoin de mon espace. Mais tu sais, mais de se rassembler... Mais moi, je pense que la génération montante, on va avoir des caves à vin dans nos résidences. on va cuisiner, tu sais, on va vouloir... Je trouve qu'on pense plus à nous que, par exemple, ma grand-mère qui est décédée à 102 ans. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est ça qu'on veut. On veut avoir des massages, on veut avoir des soins, on veut avoir une piscine, on veut avoir un spa, on veut avoir un allée de quilles. Tu sais, je pense qu'on va être vraiment des gens exigeants quand on va arriver, parce qu'on va vouloir avoir des divertissements.
C'est quoi votre souhait?
Bien, moi, c'est sûr que j'espère... Bon, on sait pas ce qui va nous arriver, donc j'espère pouvoir être active le plus longtemps
la
possible.
La vie se prolonge, tu sais, la longévité est plus grande, mais en même temps, il faut être en santé, parce que c'est ça qui compte. Puis quand on l'a, il faut en profiter. Il faut pas attendre de pas l'avoir. Moi, j'ai connu des gens qui ont attendu, puis après, j'aurais pu si j'avais su. Moi, j'essaie de pas avoir ça dans ma vie.
Louise Savard, nous revenons donc à votre livre « Vieillir à la bonne place ». Et vous avez entendu là, les réactions de plusieurs femmes, dont la ministre, dont Mme Fortin et Mme Barrette. Et qu'est-ce que ça vous évoque?
Mais dans le fond, je pense qu'ils nous rejoignent dans l'opportunité de rester à domicile. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, si je prends l'interview de Mme Barrette qui dit bon, on va avoir des services de...
Je trouve ça formidable, non?
Oui, c'est sûr, au niveau des baby boomers, c'est sûr que les exigences vont être plus là. Mais je pense que le privé a compris ça aussi. Ce que D'accord. le gouvernement s'est désinvesti dans bâtir des résidences, le secteur privé a pris une évolution auquel j'ai contribué pour trouver des endroits pour des gens autonomes et semi-autonomes et dans une voie évolutive. Donc, évidemment, il y a des piscines à ces endroits-là. Il y a une socialisation aussi qui se passe. Puis évidemment, au niveau du domicile, c'est correct si on est alimenté de la visite des petits-enfants, de l'organisation. Mais si on est seul à domicile, on perd une stimulation. Il se peut que des gens qui soient esselés, sans les aidants naturels, aient une perte d'autonomie plus prononcée. Lorsqu'ils ont accès pour aller en ressources de type intermédiaire ou une famille d'accueil, comme parlait Mme Fortin, donc ils regagnent une stimulation puis une organisation donc, de soins et services.
Ce que vous dites, c'est donc qu'on vieillit mieux dans un milieu où on est stimulé plutôt que de vieillir chez soi, seul,
isolé,
à regarder sa télévision isolé.
Oui, parce que finalement, on finit par perdre une organisation qui fait en sorte qu'il nous garde autonomes, qui nous oblige à être alerte, qui nous oblige à aller manger, peut-être à la salle à manger, on va faire nos soins et services, mais les gens vont aller jusqu'à plus s'habiller, pas avoir d'intérêt, parce qu'il n'y a plus de personne qui vient à la maison les visiter ou quelques personnes dans les visites individuelles que le CLSC peut faire.
Ça, ce sont des hébergements privés. Mais oui. Il y a beaucoup actuellement, c'est assez à la mode de mettre que plusieurs groupes, plusieurs amis se mettent ensemble, etc. Ça ressemble un petit peu à ça, finalement.
Oui, mais dans le fond, je lisais justement dans un article dans une revue qui disait qu'un groupe dans la région de Gatineau s'est organisé pour s'acheter un lieu.
C'est ça.
Et à l'intérieur de ça, de faire leur propre organisation de services et de permettre une pérennité des activités. Puis qu'est-ce qui rend heureux, c'est de se sentir utile. Mm-hmm. Parce que lorsqu'on est seul, on n'est pas stimulé, bien, on déprime. C'est pas vrai. Compliqué. Mm-hmm. Puis que ce soit nous autres, ça serait la même chose.
Sans peu importe stimuler. Notre âge.
Oui, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'organisation de vie qui fait en sorte qu'on n'est pas déprimé, qu'on est stimulé, qu'on a le goût d'aller dehors, qu'on a le goût d'arroser nos fleurs puis de faire des activités dites normales. Puis, c'est pas juste le privé, pour répondre à votre question, docteur. Il y a le secteur public qui offre le service quand même de ressources de type intermédiaire. Il y a les résidences privées pour personnes autonomes, semi-autonomes, avec une gradation des services, mais il y a aussi le secteur privé. Et malheureusement, ce que je me suis rendu compte depuis la publication de notre livre, il y a quelques personnes qui m'ont contacté. Et ce qu'on se rend compte, les travailleurs sociaux étant débordés actuellement, s'ils sentent un peu que vous êtes en moyen, ils ne feront même pas la démarche. Ils vont vous envoyer vers le privé.
Directement.
Directement. Et moi, j'ai fait l'exercice avec les familles de les préparer à cette organisation, à ces questions-là. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est confronté au réseau? Parce que l'information, c'est du pouvoir. Donc, lorsqu'on sait qu'une personne peut être en réadaptation parce qu'elle a fait un AVC et que le domicile n'est pas adapté, parce que comme Marguerite Blais parlait des différents paliers, donc il y a des possibilités à domicile aussi qui peuvent être faites. On a fait toute la rhétorique des questions potentielles. Et le lendemain, ils lui ont offert un service privé. Donc, c'est là-dessus que je dis aux gens, soyez informés, demandez les informations. Et à ce moment-là, une fois que vous êtes bien informés, vous allez être mieux outillés pour choisir.
Et qui est-ce qui paye l'installation pour rester chez soi, par exemple?
C'est des adaptations du maintien à domicile là, qui doivent aider. Il y a un budget pour ça à l'intérieur
voilà,
des CLSC.
Voilà, c'était ça ma question. Oui,
il y a certains budgets qui sont offerts. Cependant, j'ai une copine à moi que sa fille est justement handicapée, puis elle doit attendre l'aménagement de son logement. Puis on est rendu présentement à trois mois et demi d'attente et sa mère doit subvenir au paiement de ce logement-là, ce qui est absurde. Ce qui est absurde. Puis si elle ne paye pas le logement, elle va perdre sa place, puis son logement ne sera pas adapté. Fait que ça, c'est une absurdité de notre système actuellement.
C'est-à-dire qu'elle paye à l'avance
le
l'endroit
logement,
où elle n'est pas.
Voilà, c'est ça.
Ah.
Oui.
C'est une réservation qui coûte très cher.
C'est ça. Puis elle ne veut pas laisser la place parce que, dans le fond, le délai d'attente avec l'OPHQ, finalement, là, au niveau du maintien à domicile, les délais d'attente sont très longs. Fait que ça, c'est une jeune handicapée d'une quarantaine d'années qui est à domicile.
Et donc, les familles doivent payer donc une partie, finalement.
Bien, dans ce sens que sa mère doit s'assurer que les services soient faits adéquatement. Dans ce cas-ci, elle reçoit l'aide sociale, donc ils vont payer pour... Mais pour les personnes qui seront en moyen, puis ils vont donner le minimum d'ergonomie pour être fonctionnelle, sauf que si je veux faire deux aménagements de mes planchers, puis c'est pas juste la chambre de bain puis la rampe d'accès, je devrais payer pour maintenir la personne dans son milieu.
D'accord. Est-ce que les autres... Oui, bien sûr. Oui. Les autres systèmes, le RI, par exemple, qui est
Les ressources intermédiaires,
qui le paye ça? Parce que ça, j'ai vu que dans votre livre, c'est très intéressant. À l'origine, c'était une famille, une petite famille qui prenait deux personnes ou trois personnes.
Oui, c'est-à-dire que ça se rendait jusqu'à neuf et moins. On parlait de famille d'accueil.
Oui.
Le gouvernement, n'ayant peu d'argent, au lieu de payer un CHSLD, a créé une ressource qu'on a appelée ressource intermédiaire. OK? Et à ce moment-là, certains profils de soins, je ne veux pas rentrer dans trop de complexité, mais ce qui détermine l'autonomie des gens.
Oui.
Donc, certains profils doivent demeurer à domicile, d'autres nécessitent une organisation de soins, une surveillance plus accrue. Donc, je peux être plus mobile, mais avoir des déficits cognitifs. Je peux avoir un léger handicap et être obligé d'avoir besoin de l'aide et m'en aller dans une ressource intermédiaire. Donc, le gouvernement a acheté des places au privé. C'est ça qui crée la confusion. Le réseau du CHSLD n'a pas construit dans un premier courant des ressources intermédiaires. Il a acheté des lits en ressources de type intermédiaire. Et de là est né le volet de la certification pour s'assurer que ces ressources-là allaient répondre aux besoins de la population et diminuer un peu le délai des listes d'attente. Parce que les personnes qui n'avaient pas de famille d'accueil, pas d'aidant naturel, ils ne pouvaient pas rester à l'hôpital. Donc, il fallait créer quelque chose parce que là, on avait des gens qui gonflaient les listes d'attente.
Oui. Mais allons justement écouter notre deuxième Vox Pop dont on a parlé tout à l'heure, où on va entendre justement des citoyens qui parlent de qu'est-ce que c'est vieillir.
Madame Malik.
Jane.
C'est Ousmane. Jenna,
Angeline,
Clarisse.
Carmine.
Je m'appelle Jeanne.
Geneviève.
Emile.
Adèle.
Thomas.
Maëva.
Mara.
Alexandra.
Félix.
Emmanuel.
Je m'appelle Dan.
Marianne.
Patrick.
Coralie.
Vicente.
Eminégule.
Anna.
Quel serait pour vous l'endroit idéal pour vieillir, le meilleur endroit? On parle de notre maison, de notre condo, de maison des aînés. Pour vous, ce serait quoi votre plan idéal?
Dans ma maison, où est-ce que je peux recevoir mes enfants. Je m'appelle Hélène et j'ai 61 ans. Oh, surtout pas dans une résidence de personnes âgées. Moi, je pense que quand on s'en va là, on se met dans la tête qu'on est âgé.
Moi, c'est n'importe où sur la planète. Marcel? 74. Il n'y a pas d'endroit spécifique. L'endroit où je suis, c'est l'endroit où je suis heureux.
Et on doit peut-être aller vers une plus petite maison.
Lisette?
Moi, j'ai 77.
Acceptez que si vous allez dans une résidence, s'il faut aller dans une résidence, mais si vous êtes avec un conjoint ou seul, si vous avez la santé, bien, vive la petite résidence privée ou le petit appartement aussi, là.
N'importe où, à condition d'être heureuse. Peu importe où ça serait, là,
Nicole, mais,
70 ans. Bien entouré avec plein d'activités.
Ben, je voudrais rester dans ma maison le plus longtemps possible. Je m'appelle Inès. Je suis dans ma 84e année. Comme bien des vieux, je vais être obligée de m'en aller en résidence parce que je ne resterai pas toute seule dans ma maison si mon mari décède. Autrement, le mieux pour moi, ce serait de retourner dans mon île natale avec mes enfants puis mes petits-enfants.
Moi, j'ai posé la question à mon conseiller financier, Claudine, 70
ans. Là, il dit, tu devais rester dans votre maison jusqu'à temps que vous pouvez rester. Mais par contre, là, je commence à penser, en Floride, il fait beau en Floride. Ici, on gèle, là. Je commence à penser, là. Tu sais, il fait toujours froid ici, là. Oh!
Tant et aussi longtemps que je vais être capable de m'occuper de moi-même, je vais demeurer là. Marcel, 74. Et vu que je rajeunis tous les jours, je vais être là plus longtemps.
Vous seriez prête à adapter votre maison ou pas avoir de marche ou à faire toutes sortes de rénovations?
Oui. Oui. Bien sûr. En demeurant dans notre maison, à ce moment-là, il faudrait que le gouvernement, le ministère des personnes âgées, revoie leur politique en ce qui a trait à nos dépenses à la maison, quand on demeure à la maison. On pourrait déduire des dépenses, comme par exemple le chauffage, les taxes, ce qui ne se fait pas au Québec dans le moment. Moi, j'ai demeuré dans une autre province où ça se faisait. Puis je ne verrais pas pourquoi le Québec ne pourrait pas le faire.
Et des maisons des aînés, si éventuellement ça en viendrait à ça, ce serait quoi la maison idéale pour vous?
Ouais, peut-être moi, je trouvais une résidence que tout est inclus, là, quelque chose de même, mais pour qu'il y ait des activités. Puis moi, je suis pas un gars d'activité de personne âgée. J'aime pas les activités... comme on dit, de vieux.
La pétanque?
Non, du tout. Oubliez ça.
Vous êtes monsieur de Gaulle.
Bien, monsieur de Gaulle.
J'aimerais bien une résidence, puis parce que là, ben, quand on est tout seul, ça nous permet de rencontrer bien du monde et puis de la distraction, là, tu sais. Parce que moi, j'aime le monde.
La maison idéale, ça coûterait trop cher. Un jardin, puis un balcon avant, balcon arrière. Parce que moi, là, les grands corridors, je les appelle les corridors, c'est beaucoup, beaucoup d'étages, j'appelle ça des corridors de la mort.
Dans le fond, ce qui nous coûte de coûter, le peu importe, c'est les souvenirs rattachés à l'endroit où on a vécu. C'est ça qui est le plus difficile, où on a vécu avec des gens qui sont décédés. On se dit, si je quitte mon magnifique endroit, je laisse aussi mes souvenirs. Je les emmènerai avec moi, mais... On retrouve les gens qu'on a aimés à l'endroit où on a vécu. Ils sont encore là. Et ça, c'est très précieux pour le bienfait de l'âme.
Alors, on retrouve Louise Savard après ce Vox Pop très intéressant à propos de son livre « Vieillir à la bonne place ». Je trouve que tous ces gens ont envie de... Certains disent qu'ils veulent rester chez eux, rentrer chez eux dans leur île. Il y en avait une qui voulait rentrer dans son île. Et il y en a d'autres qui vont, qui sont apparemment très ouverts et très... très, comment dire, socialisés.
Sereins aussi.
Sereins et socialisés. Donc, ils ont envie d'aller voir du monde. Mais est-ce qu'il y a un âge raisonnable? Quel est l'âge raisonnable pour y aller?
Il n'y a pas d'âge.
C'est une bonne question.
Moi, à l'intérieur de ça, je peux vous parler de mon expérience personnelle avec ma mère qui a demeuré chez elle pendant de nombreuses années, de l'âge de 2 ans jusqu'à 89 ans dans sa maison. On s'est dit comment elle va réagir. Finalement, elle a réagi très positivement d'être allée dans une résidence privée, mais avec des services. Cependant, c'était dans notre région. Donc, elle a retrouvé plein de gens qu'elle connaissait. Donc, quand on parle de socialisation, c'est approprié. Et il y a des résidences aussi avec des programmes pour les gens dits autonomes.
Oui, là, donc, cette femme qui voulait retourner dans son île, c'était exactement ce qu'il lui fallait.
Parce voilà, c'est ça. Parce que dans le fond, dès qu'il y a 2, 3 ou 4 personnes, bien, finalement, la socialisation se fait plus facilement.
Oui.
Quand les gens sont malades, sont contraints à faire un choix, c'est plus difficile parce que on a entendu les couloirs, le couloir de la mort.
Oui.
Bon. Évidemment, on a essayé, avec le temps, de parler de milieu de vie, de parler davantage au lieu des corridors, des rues.
Bien sûr.
De rendre... on a fait une expérience quand j'étais à la Chine, au CHSLD de la Chine, de reprendre les endroits spécifiques de la ville, mais avec les photos du temps. Ouais. Et ça avait aidé les gens à s'y retrouver.
Ils trouvent des repères.
Oui, voilà.
Mais comment, là on parle de justement, c'est une transition. Est-ce qu'un conjoint, par exemple, un homme qui doit aller se rendre dans une résidence, un centre d'hébergement, est-ce qu'il peut, et parce que sa femme ne peut plus s'occuper de lui, est-ce que cet homme, par exemple, peut en vouloir à sa femme ou se sentir abandonné?
Évidemment, il y a comme une espèce de colère. Mais souvent, quand les personnes sont très âgées, ce que les personnes demandent au niveau des travailleurs sociaux, c'est de faire un rapatriement humanitaire. On en a parlé au niveau du livre. Quand la personne a 86 ans, son conjoint en a 84.
Oui.
Donc, évidemment, ils ont vécu plus de 60 ans ou 65 ans ensemble. C'est pas pensable que ces gens-là vont vivre cette séparation-là.
Ben oui.
Justement, ça fait un choc, le déménagement. Médicalement parlant, j'ai vu beaucoup de gens qui ont été placés en maison, et, comme on dit, et qui sont mortes quelques semaines après.
Ben, il y a une question de choc quand on rentre, mais il y a aussi l'adaptation. L'adaptation va se faire lorsqu'on va être accompagné par la famille de gens qui nous aiment, de notre conjoint qui vont les visiter régulièrement, parfois on va utiliser une salle familiale qui va emporter des petits plats. Puis après, peut-être un mois et demi, il y a possibilité, si les gens sont assez autonomes, de faire quelques sorties,
oui,
s'ils le peuvent.
Mmh.
Bon, évidemment, on a à grandir dans les besoins que les artistes nous ont parlé, comme les jardins, d'avoir des petits potagers. Mais on ne parle plus de ça au niveau du CHSLD maintenant parce que les gens sont trop hypothéqués.
Ça a changé.
Okay? C'est en ressources intermédiaires ou dans les résidences privées qu'on va retrouver ces éléments-là.
Merci Louise Savard. Malheureusement, on n'a plus le temps. Merci beaucoup de nous avoir consacré ces 30 minutes, qui est vraiment très courte finalement, à propos de votre livre « Vieillir à la bonne place », édité chez Trécaré. Je crois que vous nous avez donné beaucoup de renseignements pour trouver un hébergement adapté à chacun. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous deux.
Vous écoutez toujours « C'est bon pour la santé » sur les ondes de Canal M. François Baruel et Camille Chaï, nous sommes avec vous au micro pour la prochaine demi-heure. Et juste avant d'aller à la rencontre de notre deuxième invité, voici le coup de gueule de notre nouvelle collaboratrice Myriam Daguzan-Bernier sur le non-civisme des réseaux sociaux.
Tannée, écœurée, stressée, épuisée. Non, c'est pas le travail, ni l'université, ni une situation de ma vie qui me met dans un tel état, mais plutôt les réseaux sociaux. En fait, c'est même pas vraiment les réseaux sociaux autant que la haine et la rancœur que j'y croise à cœur de journée. On est bien loin des plateformes pour échanger des nouvelles avec sa famille et ses amis. C'est dorénavant le lieu des joutes verbales, des statuts coups de poing, des montées de lait, des propos racistes et des insultes faciles. Nous avons un important problème de civisme sur les plateformes sociales. Récemment, Hubert Lenoir a fait un passage à la télévision française. On le sait, son personnage détonne et fait jaser, il aime provoquer. Mais voilà, on aime ou on n'aime pas, fin de l'histoire. Mais non, pas pour l'utilisateur ou l'utilisatrice qui tient mordicus à venir lui dire ses 4 vérités. J'ouvre ici les guillemets. Un vrai cave! Fais-toi soigner le malade! Esti de cave sans talent! C'est un simple échantillon de ce qu'on peut retrouver sur sa page Facebook. J'embarquerai pas sur les commentaires désobligeants que les gens ressentent l'urgent besoin de confier à Safia Nolin. Honnêtement, ça décourage du genre humain. Vous, monsieur ou madame, qui venez insulter gratuitement un ou une artiste, par exemple, sur sa page Facebook, vous n'avez pas envie parfois de prendre ces quelques précieuses minutes pour faire autre chose? Pourquoi pas simplement passer votre chemin ou faire aller votre souris et votre clavier à partager une bonne nouvelle, par exemple? Il me semble qu'on s'en porterait mieux. Combien de gens autour de moi avouent être complètement lessivés et furieusement à bout de voir les commentateurs et commentateuses de ce monde venir verser leur fiel sur des publications publiques de grands médias ou même parfois sur un statut ouvert à tous et toutes? Combien me disent, et j'en suis, qu'ils et elles sentent qu'on a tous besoin d'un break de haine et de violence et que ça devrait s'appliquer en premier lieu à ces plateformes qu'on utilise au quotidien? Pour vrai, pourquoi tant de haine? Qu'est-ce qui motive les gens à venir déchirer leur chemise sur Facebook à propos de tout et de rien? Je vous l'avoue, ça me dépasse totalement. Un autre exemple, la Ville de Montréal fait actuellement un sondage auprès des citoyennes et citoyens pour leur demander comment serait leur Montréal de rêve. La question est pertinente et le questionnaire qui l'accompagne aussi. C'est une belle occasion de pouvoir discuter de ce à quoi on aspire pour cette ville. Mais bien sûr, c'est sans compter le cynisme ambiant et les insultes qui fusent contre la mairesse actuelle. Je comprends que nous sommes actuellement socialement un peu dépassés. La planète va très mal, il se passe pas une semaine sans que des nouvelles franchement déprimantes nous soient balancées au visage. Mais justement, c'est pas l'occasion idéale de faire preuve de bienveillance et d'acceptation, de s'épauler et de s'encourager mutuellement pour un monde un peu meilleur? Êtes-vous vraiment plus épanoui après avoir déversé votre rage ou votre frustration sur Facebook? Avez-vous vraiment l'impression d'amener une pierre à l'édifice du changement ou c'est pas plutôt une question d'ego insatisfait? Je me pose sincèrement la question. Actuellement, les études et les articles pullulent à propos de notre santé mentale défaillante au Québec. Les services ne sont pas là pour répondre à la demande qui ne cesse de croître. Ceci mérite qu'on lève le poing et qu'on s'insurge. Mais constructivement, chialer pour chialer, hurler qu'on est géré par une bande d'incompétents, insulter celles et ceux qui ne pensent pas comme nous, ça ne nous mènera pas bien loin si on s'obstine chacun dans son coin en se regardant le nombril. En plus de créer une ambiance nocive et stressante pour tout le monde, je pense qu'on n'a plus jamais que besoin d'être solidaires et de regarder dans la même direction malgré nos différends et nos différences. Arrêtons de pratiquer ce qu'on nomme souvent notre sport national, c'est-à-dire chialer, et voyons un peu ce qu'on pourrait faire de concret au lieu de perdre son temps à dénigrer les autres et à saillir entre deux statues. Il me semble que ça nous ferait collectivement du bien de se calmer le pompon et de s'offrir mutuellement un peu de bienveillance, vous pensez pas?
C'est maintenant le temps de notre deuxième entrevue et on a le plaisir d'accueillir Dr. Monique Bessette. Bonjour.
Bonjour. Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. Donc, Madame Bessette, vous êtes psychologue clinicienne. Vous êtes formatrice et conférencière spécialiste des enjeux de personnalité. Vous avez fondé et vous dirigez l'Institut Victoria qui offre, entre autres, des services destinés aux gestionnaires et aux employés. Donc, vous offrez de la formation, du coaching, de la psychothérapie et surtout une expertise psycho-légale. Vous avez co-écrit le livre « Les personnalités particulières au travail », alors comment les superviser et collaborer efficacement avec elles, des éditions de l'Homme. C'est un livre que vous avez co-écrit avec Marie-Christine Grand, qui est entre autres travailleuse sociale et psychothérapeute. Alors, entrons dans le vif du sujet.
Allons-y.
On se dit souvent que quand on va travailler ou notre motivation du matin, d'aller au bureau, c'est de penser aux personnes avec qui on travaille autour de nous. Là, on parle des personnalités particulières au travail. Donc, c'est quoi une personnalité particulière ou on peut les appeler les PP aussi, comme vous écrivez dans votre livre?
Oui, alors une PP essentiellement, et ça représente 15 % de la population générale. Et sachant que 78 % de la population générale est active au travail, c'est quand même pas mal de monde. Ce sont des personnes qui, en fait, ont des lacunes, c'est pas de leur faute, mais elles ont des lacunes très importantes sur le plan de la régulation de leurs émotions, sur le plan d'estime de soi. Elles ont aussi de la difficulté, parce qu'elles sont tellement hypersensibles à la critique et au rejet, de la difficulté à maintenir des relations stables. Et elles ont beaucoup plus de difficultés que la moyenne des gens à s'adapter au changement.
Donc, ça peut créer des situations parfois un petit peu extravagantes où ça fait du mouvement dans certains groupes de travail.
Bien, en fait, j'imagine que votre question, c'est mais comment ça se manifeste
exactement.
En milieu
ben
de
oui,
travail?
Tout à fait.
Bon, bien, alors, ça va être des gens qui vont manifester des émotions intenses pour des déclencheurs un peu banals, comme par exemple péter sa coche, comme on dit, avoir des explosions de colère pour des frustrations que, bon... qui sont gérables habituellement ou qui vont déverser leurs peines, leurs problèmes personnels. Mais c'est sûr, on le fait là, de temps en temps.
Oui.
Mais quelqu'un qui va finir par passer plus de temps à jaser puis de ses problèmes en vous disant « Ah, oh, ça me fait tellement de bien quand je viens te voir, tu fais ma journée.
Mm-hmm. »
Ça peut être un collègue ou un employé qui a besoin d'être toujours autosuffisant ou bien au contraire, qui va vouloir se faire prendre par la main.
Mm-hmm.
C'est des gens qui ont tendance à distorsionner les faits. Par exemple, un patron va téléphoner à un employé particulier qui est en arrêt de maladie pour lui faire un appel de courtoisie, qui va lui dire « Écoute, t'en fais pas, nous ici, au
tout bureau... » se passe bien.
Oui, on va se débrouiller, voilà, pense à reprendre tes forces et qui, lui, va être sincèrement convaincu et outré et dévasté de voir ça comme son patron a fait exprès pour l'humilier en lui faisant savoir que son travail est inutile.
En fait, ça fait dans le livre, vous parlez de personnalité particulière, mais vous qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez, est-ce que médicalement parlant, psychologiquement parlant, puisque vous êtes psychologue, ce sont quoi? Des narcissiques, des infantiles, des paranoïaques? c'est quoi?
Ben, c'est un peu tout ça. En fait, Marie-Christine et moi, on tenait à trouver un terme là, qui ne soit pas péjoratif.
Non.
Et on ne voulait surtout pas que les gens se mettent à se donner des diagnostics psychiatriques au travail ou dans leur salon, d'où personnalité particulière. Mais en fait, ce à quoi ça réfère, c'est aux troubles de la personnalité.
Oui.
Et c'est ça qui constitue 15 % de la population
ça
générale.
Ça se manifeste, le narcissisme, vous pourriez définir juste
oui,
narcissisme?
Oui, absolument. Mais juste pour vous situer,
oui,
ce n'est pas une maladie mentale qui a un substrat
un
biologique héréditaire.
C'est un trait de caractère.
Mais c'est quand même, mon Dieu, c'est à la fois quelque chose qui peut se corriger, mais en même temps qui est une souffrance profonde.
Oui.
C'est pas des détails.
Oui.
Donc, les gens ne font pas exprès. C'est pas de la mauvaise volonté ou de l'impolitesse.
Mm.
La manière de vulgariser le tout, c'est de parler de deux grands types. Le type narcissique et le type infantile. Dans le type narcissique, en fait, c'est une personne qui, pour se protéger d'une tempête là, de stress et d'émotions, mais qui est dans le garde-robe, là, on parle de rage, de honte de soi, de désespoir, d'impuissance, de toutes sortes d'affaires, va avoir besoin de se montrer irréprochable et supérieur.
Mmh.
Et ça se décline de deux façons. Il y a le style narcissique flamboyant. Alors ça, c'est le collègue qui n'arrête pas de se vanter en réunion parce qu'il est occupé à se prouver puis à prouver aux autres qu'il est bon. Là.
Mais il y croit, hein?
Ah, absolument!
D'accord.
Il y croit. Mais j'y reviendrai. Et il y a le narcissique qu'on dit de placard, c'est-à-dire qui va, au contraire, lui, se présenter ou elle comme quelqu'un de modeste, de dévoué, d'effacé, mais qui finalement s'organise pour faire ce qui est glorieux et qui a quand même ce même besoin d'être perçu comme supérieur et irréprochable.
Mm-hmm.
Le type infantile, par ailleurs, c'est le contraire. Lui ou elle, pour se protéger de sa tempête de stress et d'émotions, a besoin de se montrer pitoyable, plus démuni et moins compétent qu'il ne l'est en réalité. Et les deux types vont nous amener dans des dynamiques relationnelles différentes.
Mais il peut y avoir le mélange des deux? Ou c'est pas possible?
Non, c'est pas possible.
C'est pas possible.
L'un ou l'autre.
D'accord.
Non, mais ça nous aide à pouvoir les identifier ou savoir de qui on parle. Je suis sûre que ça peut parler à plein de personnes qui nous écoutent en ce moment. Hein. Tous ceux qui vont au travail, je sais pas si on peut les appeler comme ça, un peu le mouton noir ou la personne qui fait souvent parler d'elle ou qui fait réagir au travail.
Oui, il y a ça aussi. Mais ce qui est important de dire, je crois, c'est que ces personnes ne sont pas toujours dans le même état. Elles fluctuent.
Voilà.
Alors, elles peuvent être tout à fait normales, mais lorsqu'on les sort de leur zone de confort et qu'elles sont stressées, ce qui arrive rapidement, elles peuvent être soit dans leur mode idéal, c'est-à-dire que là, elles vont percevoir que tout le monde autour est parfaitement gratifiant, sur la même longueur d'onde et des sauveurs. Et elles peuvent être dans un troisième état qui est le mode infernal, où elles perçoivent qu'elles n'ont plus de valeur, que le monde est malveillant. Et évidemment, elles vont réagir et interagir avec nous à partir de ça. Et il y a le phénomène de la contagion émotionnelle qui est intéressant de comprendre. C'est que dans notre cerveau a la faculté d'identifier, de reproduire en nous cette tempête de stress et d'émotions. Donc, on va capter inconsciemment les émotions de la pépée, de la personnalité particulière, et on va se mettre à nous-mêmes douter de nous ou être furieux, humilié, de façon beaucoup plus intense que d'habitude.
Parce qu'on le serait nous-mêmes. Ben, c'est fascinant. Je vous propose qu'on passe à la chanson, mais on reste sur ce sujet, on continue après la chanson.
J'y vais plus, hein? Bah, il m'est arrivé une histoire extraordinaire! Vous êtes pas au courant, non? Bah, il m'est arrivé une histoire extraordinaire! Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te squeeze, c'est aujourd'hui qu'il passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi Zanzibar. Bon. Et sur le champ, on est refoulé par les agents.
Faut circuler là.
Alors j'ai dit,
on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé.
Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République.
Laissez-nous donc, on le regarde.
Sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole nous en viendra pas. Le jour de la fête à Julot,
mon poteau,
je l'ai amené dans un
petit bistrot
où l'on goûte un Beaujolais.
Ouais, de vrai, ouais.
Un hectare de première.
Allez, ouais.
On est sorti très à l'aise.
Et voilà
que j'ai eu l'idée
de rallier chez moi.
Mais j'ai compris devant le boulot à part ici. Oh, sur la tête.
On n'est pas là pour se faire engueuler.
On est là pour la fête à mon pote.
On n'est pas là pour se faire assommer.
On est venu faire une petite bolette. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse incroyable.
Ouvre cette porte et sors des terres.
Ne t'obstine pas, sans ça le prochain coup. Ma parole, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là qu'on a trépassé le soir même. Et voilà qu'on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient. Mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à gueuler. Alors on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire engueuler,
on est mort, il est temps qu'on rigole.
Si vous planquez les ivrognes à la porte, il ne doit pas vous rester beaucoup de monde.
Portez-vous bien, mais nous on se barre.
Alors on est descendu chez Satan et en bas c'était les patrons.
Si vous plantez quand il est temps, quand on peut finir par obtenir des ménagements.
Alors on on est de retour et on parle avec Dr Bessette des personnalités particulières au travail. Juste avant la chanson, on parlait justement de la contagion émotionnelle, de tout ce que ça peut nous faire vivre, de travailler avec un collègue donc, qui a une personnalité particulière. Comment, donc là, les gens qui nous écoutent peuvent commencer à pouvoir identifier certaines personnes qui sont autour d'elles sans vouloir non plus pointer les gens du doigt ou quoi que ce soit. Hein. Non, voilà, mais c'est juste une question parce qu'on vit, ça nous fait vivre des choses intérieurement. Puis c'est important de, justement, on veut savoir comment bien vivre ces relations qui parfois peuvent juste simplement être plus compliquées. Ça fait partie de la vie, c'est tout à fait normal.
Ben oui, puis en toute justice, il faut bien voir que la façon dont on réagit à la contagion émotionnelle, ben ça nous appartient quand même. Voilà. Il y a certaines attitudes et certains ressentis qu'on peut éprouver qui vont jeter l'huile sur le feu et escalader jusqu'à des conflits et également d'autres dispositions qui vont calmer le jeu. Alors, en fait... quoi faire?
Oui.
C'est ça. Il faut acheter le livre et lire. On présente en fait une méthode de communication qui commence justement par recouvrir ses esprits.
Oui.
C'est très important de se donner la permission, même si c'est très douloureux, de ressentir ce que ça nous fait vivre. Parce que la contagion émotionnelle va nous avoir mis dans des états, puis on s'en culpabilise. Par exemple, un patron va dire « Mais mon Dieu, je suis un horrible monstre, je ne suis pas une bonne personne, je déteste cet employé. » Ou un collègue va dire « Mais en fait, je suis incompétente, comment ça se fait? »
C'est des remises en question.
Oui, et c'est douloureux.
Oui.
Et souvent... ça va nous avoir aussi poussé dans nos retranchements. On va peut-être avoir élevé le ton soi-même. Et là, finalement, on n'est pas blanc là, et on a peur du jugement. Alors, la première étape, c'est de reconnaître qu'on vit ça. Mmh. Et ensuite, dans un deuxième temps, grâce également à la description qui est faite dans le livre, on peut comprendre, ah, OK, on comprend deux choses. Qu'est-ce est la contagion émotionnelle qui vient de l'employé Pépé, mais qu'est-ce qui aussi est ma motivation? Est-ce que, comme patron, c'est tellement important pour moi d'avoir l'impression que tous mes employés sont satisfaits? Est-ce que c'est ça qui a fait que j'ai pris dans la relation malsaine? Alors que là, je me rends compte, non, cet employé-là, si je le comprends dans son monde intérieur, c'est... il ne sera jamais satisfait.
Oui.
Même si je lui fais des accommodements sur accommodements sur accommodements...
Ça ne fonctionne pas.
C'est pas dans lui d'être content. Il aurait besoin que je sois parfaite. Alors, une fois que ça s'est résolu, bien, on retrouve nos esprits une clarté, puis là... En troisième étape, on va voir, OK, pendant que j'étais pris là-dedans, c'est quoi la partie de la réalité que j'ai perdue de vue?
Oui.
C'est quoi? Bon, ben et là, ça devient beaucoup plus simple. Ah, OK, le contrat de travail entre un patron puis un employé, c'est ça. Entre deux collègues, c'est ça. Et finalement, on propose un duo dans la communication qui allie à la fois l'empathie. Il faut communiquer... qu'on comprend les bonnes motivations. Par exemple, on va dire, écoute, François, je comprends que ça te tient à cœur de nous donner un rapport le plus utile possible, de la meilleure des qualités. Et je comprends que c'était pas dans ton intention, mais quand tu manques les réunions pour peaufiner ton rapport, ben nous, ça nous cause tel problème. Mm-hmm. Alors, on va à la fois... communiquer de l'empathie puis du respect, mais la réalité aussi. C'est quoi les contraintes? On revient à quelque chose de plus raisonnable.
De palpable, oui. Pour essayer de ne pas déclencher l'autre dans nos propos.
Bien, en même temps, parfois, ça va être incontournable de le déclencher. Par exemple, souvent, le piège dans lequel les gestionnaires tombent le plus souvent, là, c'est éviter de gérer les écarts de comportement et d'attitude parce qu'ils essaient d'acheter la paix ou ils sont rendus eux-mêmes furieux ou apeurés.
Oui, c'est un comportement qu'on retrouve de toute façon dans la vie de tous les jours. Mais est-ce que, par exemple, je suis sûre que, encore une fois, ça nous est tous arrivé à chacun, par exemple, à un 5 à 7, un rendez-vous, une personne entre et de façon un petit peu peut-être inconsciente ou consciente, on va avoir tendance à éviter cette personne ou alors on sent qu'on marche sur des œufs. Donc, c'est là qu'on... Est-ce qu'on doit se sentir mal quand on commence à avoir ce comportement d'évitement envers l'autre personne?
Bien, c'est sûr que quand on est au travail, on ne peut pas juste éviter le collègue ou l'employé, il est là.
Oui.
Et c'est justement à ça que sert la méthode en quatre étapes.
Exactement.
Il faut sortir de la peur, de l'évitement. Et on a peur de quoi? Des fois, là, on a peur juste de se mettre à hurler de rage. Alors, on préfère éviter la discussion.
Et quand vous parlez des quatre étapes, c'est intéressant pour justement se rendre compte si on est en présence d'une personnalité particulière. Vous parlez de l'étape 1 qui est le charme, on en parlait en début d'entrevue, le conflit, le chaos, et ça peut des fois se terminer par le congé de maladie ou le congédiement. Donc c'est quand même un processus, hein. Les personnes passent par plusieurs étapes. Donc c'est intéressant en fait dans votre livre parce que vous proposez des exemples très précis. J'imagine que vous avez pris des personnages fictifs où vous décrivez le profil d'une personne et sa façon d'interagir au travail.
Bien, ce qui est fascinant, c'est que dans mon expérience comme clinicienne et aussi comme formatrice de thérapeute, de PP, mais aussi dans mon expérience d'intervention en entreprise avec des gestionnaires, c'était fascinant. Tout le monde était pris dans la même dynamique, en fait. Par contre, le schéma charme, conflit, chaos, congédiement, ça va pas nécessairement jusque-là. Et il y a aussi des personnalités particulières qui vont bien fonctionner.
Oui, tout à fait. On peut en voir de toutes les sortes. Mais en fait, moi, je vous remercie d'être venu aujourd'hui parce que ça nous a éclairé. J'espère que les gens, s'ils sont curieux, veulent en savoir plus, qu'ils aillent justement lire votre livre. Et je rappelle le titre qui est « Les personnalités particulières au travail, comment les superviser et collaborer efficacement avec elles » des éditions de l'Homme. Merci, Dr Bessette.
Merci.
Alors Camille, ton billet maintenant. Alors tu vas nous conter une légende amérindienne qui s'appelle les loups.
Exactement François. J'avais envie, après les sujets dont on a discuté aujourd'hui, de vous parler de sagesse. Pourquoi pas? Et donc je me suis dit oui, rien, quoi de mieux qu'une bonne légende amérindienne. Est-ce que vous avez entendu parler de cette légende donc, qui parle des deux loups? En fait, je vais vous la raconter. C'est l'histoire d'un vieil Indien qui raconte à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui existe chez tout le monde. Et donc, le vieil Indien raconte à son petit-fils « Écoute, mon fils, il y a une bataille entre deux loups à l'intérieur de nous tous. L'un est le mal. Donc, ça peut être la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, la honte, le rejet, l'infériorité, le mensonge, la fierté, l'ego, la supériorité, on peut en nommer, hein. » Et l'autre loup, eh bien, c'est le bien. On peut parler de la joie, de la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, et la liste continue aussi. Et dans cette énumération-là, le petit garçon donc, réfléchit à cette histoire et finit par demander à son grand-père « Oui, mais grand-papa, lequel des deux loups gagne cette bataille ?» Et le vieux grand-père répond « Celui que tu nourris. » Et c'est là que je trouve que c'est une histoire qui est magnifique. Quand on parle de sagesse et qu'on doit se dire en fait que tout revient... Oui, tout ce qu'on vit, c'est notre responsabilité. Ça dépend toujours de notre attitude. Là, on parle du bien et du mal, mais tu es d'accord avec moi, François, pour peut-être dire qu'on n'est jamais tout blanc ou tout noir.
Jamais.
On est nuancé.
Mais oui, bien sûr.
Donc, comment vivre? Moi, je trouve que c'est une question, une réflexion qu'on peut se faire à tous les jours et même plusieurs fois par jour. On en vit des choses dans une journée. C'est facile de vouloir, justement, on conduit sur la route, quelqu'un nous coupe. Comment on va réagir? On va nourrir notre loup blanc ou notre loup noir? Et ça peut créer toutes sortes de situations. Et moi, je vous avoue que c'est quand j'ai entendu cette belle légende, eh ben, je l'ai gardée en tête et c'est, j'adore raconter des histoires. Et oui, ça permet vraiment de faire le point sur qui on est, sur qu'est-ce qui nous anime à l'intérieur de nous, si on se lève un matin, qu'on se sent bien ou pas. Mais tout dépend tout simplement de ce qu'on s'est mis dans la tête.
Comment on a décidé de nourrir le loup, le noir ou le blanc?
Ben oui.
Peut-être, oui.
Lequel vous pensez qui serait le mieux de nourrir? Question facile, hein? Le loup blanc. Mais le loup gris aussi, c'est intéressant. Hein? Mm-hmm. C'est cette nuance aussi que cette légende nous propose. Donc c'est une belle, une belle réflexion à garder.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est déjà ce qui fait la fin de notre émission. Alors, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui travaillent fort pour pouvoir produire cette émission. Je vais évidemment commencer par remercier nos invités aujourd'hui.
Ah,
donc, on a eu Louise Savard, Monique Bessette, Annick Filion, Myriam, Catherine Bourderon, qui est notre chroniqueuse et recherchiste à l'habitude, Jean-Sébastien Laliberté, qui s'occupe de la mise en onde, et sans oublier toi-même, cher François Barbiel, mon co-animateur.
Et ma chère Camille.
Et merci à vous tous d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour C'est bon pour la santé.